que mon autopsie de Jean-Louis Fournier. Mode de conservation. Avant de donner mon corps à la science, j'avais envisagé de le conserver. J'avais le choix entre différents modes de conservation. Certainement à cause de son joli nom, la sublimation m'avait tenté. Puis la lyophilisation, qui est l'épuration d'un corps solide et sa réduction en poudre par la chaleur. Je me voyais bien passer le temps dans un sablier. Vite, j'avais rejeté la cryogénisation. Je ne souhaitais pas que mon corps solide passe son éternité dans un freezer ou dans le noir. Tout le monde sait que la lumière s'allume seulement si on ouvre la porte. En plus, je déteste le froid. Un temps, j'avais songé au fumage. Finalement, j'ai compris que le don à la science était une sage solution. Je l'appelle Égoïne. Elle est entrée dans ma vie avec une lame. Peut-être d'abord celle d'un coup de papier pour mes livres, maintenant avec une scie pour en savoir plus. Après avoir découpé mes livres, elle va me découper en vrai. Taillée dans le vif du sujet, elle va écrire mes mémoires avec son bistouri. Curriculum mortis. Mais pourquoi m'a-t-elle choisi? Elle a dû trouver en moi quelque chose qui lui plaisait. Quoi? Mais c'est elle à qui elle a affaire. Quand j'ai donné mon corps à la science, on ne m'a pas demandé mon curriculum vitae. Elle ne doit pas savoir grand-chose de moi. Est-ce qu'elle sait que je ne suis pas n'importe qui? Est-ce qu'elle sait que j'ai réalisé beaucoup de documentaires pour la... Pardon, je reprends. Est-ce qu'elle sait que j'ai réalisé beaucoup de documentaires pour la télévision? Que j'ai eu un set d'or? Que j'ai écrit 33 livres? Que j'ai eu le prix Femina? Que j'ai créé La Noiraude, un dessin animé à la télévision? Que j'étais l'amie de Pierre Desproges et le mari de Sylvie Durper? Que j'ai touché l'épaule d'Elisabeth Taylor? Que j'ai eu une Bentley? Je ne voudrais pas avoir l'air de la ramener, mais j'aimerais bien qu'elle le sache. Pouvoir le lui dire, je n'en peux plus.
Je vais vous lire un texte de Max Gallo qui s'appelle « Il n'est jamais trop tôt ». Maintenant que mon fils avait acquis la station debout, qu'il appartenait à la glorieuse race des bipèdes porteurs de progrès, il fallait qu'il s'affirme rapidement dans le domaine intellectuel. Et là, je comptais bien faire merveille. Ma mère m'avait assuré que j'avais été un grand lecteur dès mon plus jeune âge, dévorant les dictionnaires alors même que leur poids m'interdisait de les déplacer. C'est dire si j'avais commencé tôt à acquérir cette culture encyclopédique. En le portant dans mes bras, je lui avais fait longer ma bibliothèque où se serraient les 9 volumes de la langue française et les je ne sais plus combien de volumes d'une encyclopédie. Mais il n'avait pas paru intéressé. Manifestant même par le jeu incongru de ses sphincters qu'il voulait voir cesser rapidement cet apprentissage, peut-être prématuré, de la bibliographie. Mais il n'échappa pas au dictionnaire en un volume, et chaque matin, son biberon avalé, il eut droit à la lecture de quelques mots. Le résultat fut médiocre. Je perfectionnais donc ma méthode, puisque, à l'évidence, mon fils n'était pas aussi surdoué que je l'espérais. Le système que je mis au point était simple. Je découpais chaque jour un petit rectangle de carton sur lequel j'écrivais une lettre ou un chiffre. Je présentais ce carton à mon fils tout en tenant le biberon et je répétais « A » ou « 2 »,« O » ou « 9 »,« Z » ou « 7 » jusqu'à ce que mon fils pût à son tour, entre deux gargouillis, émettre un son qui ressembla à ceux que j'avais émis. Parfois, bien sûr, j'étais saisi par l'inquiétude. Je présentais le « A » et mon fils, fixant le petit carton, répétait « me ». Et ce son de bovidé classique chez les petits-enfants, affirmait ma femme, me désespérait. Il y eut même plus grave. Un cousin germain du même âge et dont le père se désintéressait, et qui avait déjà marché à l'âge de 10 mois, se mit à parler, prononçant sur le ton de la provocation « Papa, maman !» et même d'une voix aiguë, hautaine, presque méprisante, « Le chien !» Son père, mon frère cadet, hypocrite comme à l'habitude, faisait mine de considérer cela comme normal. J'éprouvais à comparer les performances de mon fils et de son cousin une déception qui, au fil des semaines, tourna à l'humiliation. Ma femme prétendit que mon neveu, de lui-même, avait commencé à feuilleter les livres et à reconnaître les lettres. Dieu me soumettait à une épreuve. Mais comment aurais-je pu ne pas surmonter les obstacles qu'il mettait devant moi, c'est-à-dire devant mon fils ? Je m'obstinais donc. Je faisais glisser l'une après l'autre mes petites cartes. A, B, mais l'enfant fermait les yeux, se balançait ou se mettait à balbutier des sons informes. La panique me saisit. Je profitais de l'absence de ma femme pour me précipiter chez un pédopsychiatre qui me conseilla d'abord d'entrer en analyse afin de maîtriser mon propre passé et de ne pas en écraser mon fils. Il l'examina. L'enfant avait de bons réflexes, mais il semblait pourtant manifester un certain retard dans la maîtrise du langage. J'avouais ma perplexité. N'avais-je pas utilisé une méthode certes empirique, mais qui aurait dû donner de bons résultats ? Je l'exposais. « Cessez immédiatement, me dit le médecin, vous allez rendre votre enfant muet ou bègue. » Je rentrai chez moi, penaud, brûlai dans la cheminée mon alphabet, mes chiffres, et pris rendez-vous avec un psychiatre. Peu de temps après, mon fils commençait à parler et je perdis l'usage de la parole.